Nous préparer à recevoir sa parole. Mais avant cela, je vous demande donc d'incliner vos têtes dans la prière. Nous voulons demander à l'Esprit de Dieu de disposer nos cœurs. Nous voulons demander au Seigneur de déposer sa pensée sur nos cœurs, car c'est ce qui vient de lui et de lui seul qui a cette vertu, cette capacité extraordinaire à nous transformer à son image, à nous faire ressembler à lui et à lui seul. Nous voici de nouveau, Seigneur, devant toi, alors que nous nous apprêtons, Seigneur, à recevoir ta parole. Nous aimerions avant toute chose, Seigneur, te remercier pour ce temps que nous avons eu, Seigneur, avec toi et en ta présence, ce temps qui nous a permis de nous réjouir devant toi, de nous exprimer librement et avec confiance, Seigneur, devant ta face. Merci d'avoir eu une oreille attentive, Seigneur, et d'avoir accueilli favorablement notre louange, notre adoration, l'expression de nos sentiments, les paroles, Seigneur, qui sont sorties de nos bouches. Tout cela a trouvé un écho positif auprès de toi, parce que nous sommes ton peuple, parce que nous sommes ces hommes et ces femmes que tu as rachetés par ta mort à Golgotha, ces hommes et ces femmes à qui tu t'es révélé et que tu as mis à part, ô Dieu, pour être un peuple puissant, un peuple qui marche, Seigneur, selon les prescrits de ta parole, selon tes injonctions. Oui, merci pour tout, Seigneur. Maintenant, nous te prions de nous parler. Maintenant, nous te demandons, Seigneur, ô Dieu, de te révéler une fois de plus à chacun de nous par et au moyen de ta parole. Tu sais combien nous en avons besoin, surtout dans ce monde, Seigneur, ô Dieu, où l'Église est secouée par toutes sortes de fausses doctrines, par toutes sortes d'hérésies abominables. Seigneur, alors que ton Église est ballottée, alors qu'elle tangue, Seigneur, sous la pression de toutes sortes de pratiques qui n'ont rien à voir avec ta parole, oui, dans un monde pareil et dans un temps pareil, nous avons plus que besoin, plus que jamais, de rester attachés à ta parole. Alors aide ton serviteur à la proclamer avec force, Seigneur, avec intelligence, Seigneur, ô Dieu, et de manière persuasive, et aide chacun de nous à accueillir favorablement ta parole, car elle est une véritable nourriture pour notre âme, pour notre esprit, mais aussi pour notre corps. Parle-nous, fais-nous du bien. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur, alléluia, que Dieu soit béni. Merci à nos choristes, merci pour ces moments merveilleux, ces moments extraordinaires de louange et d'adoration. Nous allons donc, sans plus tarder, nous tourner vers la parole de Dieu et poursuivre avec notre thème sur la nécessité d'une vie de gloire en gloire, sur l'importance, sur la nécessité, mes amis, de vivre le genre de vie auquel le Seigneur nous destine. Alléluia. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, nous allons prendre une première illustration. Ce sera donc la vie de l'apôtre Paul et nous allons voir ensemble comment cet homme, après sa rencontre singulière, sa rencontre glorieuse avec le Seigneur sur le chemin de Damas, comment aussitôt le Seigneur a déclenché ce processus de transvasement, comment le Seigneur va amener son humble serviteur, eh bien, de vase en vase, de gloire en gloire, comment la vie de Paul va être un parfum de bonne odeur. Comment sa personnalité, son caractère vont complètement changer, et tout cela, eh bien, par l'expérience du brisement au travers des épreuves. Une vie de gloire en gloire, quatrième épisode. Nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 9. Là, nous allons à la rencontre de celui qui fut autrefois Saul de Tarse, et qui deviendra, après l'expérience du chemin de Damas, deviendra l'apôtre Paul. Actes chapitre 9, Nous allons commencer notre lecture au premier verset et nous lisons. Cependant, Saul, qui respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il y trouvait quelques-uns, hommes ou femmes, qui suivent cette voie, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ?» ou la forme araméenne que le Seigneur utilise pour lui parler, c'est « Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Moi, je suis Jésus que tu persécutes. Il serait dur de régimber contre les aiguillons. » Tout tremblant et stupéfait, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Alors le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et l'on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui voyageaient avec lui s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Il fut 3 jours sans voir et ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision « Ananias ». Il répondit « Me voici, Seigneur ». Le Seigneur lui dit « Lève-toi, va dans la rue appelée la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai entendu dire par beaucoup combien de mal cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem, et il a ici, de la part des principaux sacrificateurs, le pouvoir de lier à tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est pour moi un instrument de choix, afin de porter mon nom devant les nations et les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai combien il faudra qu'il souffre pour mon nom. » Ananias partit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul et dit, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui était à Paris sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli d'Esprit Saint. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après avoir pris de la nourriture, il retrouva ses forces. Il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas et aussitôt, il se mit à prêcher Jésus dans les synagogues en disant que c'était le Fils de Dieu. Amen. Quel changement radical. Le persécuteur de l'Église, c'est lui qui traquait les disciples du Christ comme un prédateur traque ses proies. Eh bien, après cette expérience sur la route de Damas, devient un des champions de la foi chrétienne, devient un serviteur et aussitôt, il se met à partager aux Juifs de Damas que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Une vie de gloire en gloire. Pour nous permettre, mes amis, de comprendre l'importance de mener une vie dont la courbe est ascendante, afin de permettre à chacun de nous de comprendre qu'il faut que nous allions de transformation en transformation, que nous allions de métamorphose en métamorphose. Nous nous sommes donc inspirés de la vie de Moab. Et nous l'avons vu pendant 3 dimanches. Quelle était la condition de Moab? condition décrite dans le 48e chapitre du prophète Jérémie, où nous avons vu que Moab était tranquille depuis sa jeunesse, qu'il reposait sur sa lie, parce qu'il n'avait pas été transvasé, parce qu'il n'avait pas été amené en captivité, parce qu'il n'avait pas été confronté, mes amis, à l'adversité, parce qu'il n'avait pas connu l'épreuve. Et finalement, Moab a fini par se reposer sur sa lie. Et nous avons vu quels étaient les éléments qui constituaient cette lie sur laquelle Moab reposait. Et nous avons mis en évidence ces éléments, à savoir le fait que Moab, avec le temps, avait fini par placer sa sécurité dans ses possessions matérielles, dans ses trésors, dans ses œuvres. Ses villes étaient fortifiées. Il s'est senti à un certain moment impuissant, au point où il s'est élevé contre le Dieu d'Israël. Ensuite, Moab a fait preuve d'un orgueil, mais alors un orgueil extrême, un comportement marqué par l'outrance. Mes amis, il a fait preuve d'une fierté, d'une arrogance insupportable, voyez. Et à cause de tout cela, eh bien, le Seigneur a fini par décider que Moab passe par des moments d'adversité, c'est-à-dire qu'il soit vidé d'un vase dans un autre. Alléluia. Et cela en connaissant l'exil, en allant en captivité. Et c'est de cette manière qu'il a été vidé du vase, mes amis, du premier vase, vase avec sa lie, lie sur laquelle, Moab se reposait. Et nous avons donc conclu en disant que, à travers la vie de Moab, nous voyons, nous avons vu, et nous allons revenir encore une fois de plus là-dessus, la nécessité, mes amis, de ce processus de transvasement, qui est donc un processus indispensable pour nous amener à ressembler à Jésus-Christ. Alléluia. Car l'idéal de la vie chrétienne, c'est que nous puissions ressembler davantage, chaque jour qui passe, à notre Seigneur bien-aimé, à savoir Jésus-Christ. Il n'y avait pas d'autre moyen de débarrasser Moab de sa lie que de le vider d'un vase dans un autre. Et comme il n'avait pas été transvasé, eh bien, la lie a fini par se déposer, par atteindre de proportions terribles, et par affecter, par altérer son goût et son odeur, c'est-à-dire sa personnalité et son caractère. C'est ce qui arrive dans la vie de chacun de nous. Tout au long de notre vie, nous aurons à faire face à plusieurs lies dans notre vie. Je vous rappelle que la lie dont il est question, L-I-E, c'est le dépôt qu'on trouve au fond des boissons fermentées, comme la bière ou comme le vin. Eh bien, tout au long de notre vie, nous aurons affaire à toutes sortes de lies, à toutes sortes d'impuretés, à toutes sortes de comportements désagréables au Seigneur, à toutes sortes de scories. Et comment nous débarrasser de toute cette lie-là? Eh bien, c'est par le transvasement, alléluia. Nous devons être vidés. Et pour être vidés, eh bien, le Seigneur a un moyen extraordinaire, c'est-à-dire nous faire passer par les épreuves. Et par les épreuves, à travers les épreuves, le Seigneur va procéder à cette opération difficile, mes amis, car être transvasé veut dire être déraciné, quitter ce qu'on a, les attaches qu'on a avec ceci ou cela, pour aller sur un autre rivage, et là affronter de nouvelles réalités. Mes amis, une vie qui plaît au Seigneur, une vie agréable à Dieu, c'est une vie qui va de gloire en gloire. C'est une vie qui passe par toutes sortes d'expériences, des brisements. Sans le brisement, mes amis, nous ne pouvons pas aller loin dans notre marche avec le Seigneur. Et pour nous briser, mes amis, le Seigneur utilise les épreuves. C'est donc les épreuves qui sont des outils entre les mains du Seigneur pour nous débarrasser de toutes sortes de lies, pour nous transformer à son image. Alléluia. Et nous amener, mes amis, à aller de gloire en gloire. Et nous avions donc terminé par cette illustration concernant la différence qu'il y a entre une fleur dans un pot, bien conservée dans une maison où règne une bonne température, une fleur dont on prend soin régulièrement, la différence avec une plante d'extérieur. La fleur en pot, mes amis, dès qu'elle est confrontée à l'adversité, eh bien elle meurt. Alors que la plante d'extérieur, ayant été exposée au soleil, à la pluie, au froid, à la chaleur, bref, aux intempéries, aura développé une certaine résistance. Alléluia. C'est pourquoi la plante extérieure n'a pas besoin qu'on prenne soin d'elle. Eh bien, c'est ce que le Seigneur voudrait, que nous ne soyons pas cette plante trop maternée, voyez, qui avec le temps va finir par s'asseoir, oubliant qu'il n'est qu'un voyageur ici-bas. Notre cité est là-haut. Alléluia. Et tout ce qui tend à nous maintenir dans une vision de la vie chrétienne statique doit être rejeté. Alors, mon frère et ma sœur, si tu passes par des moments d'épreuve, si tu es secoué par toutes sortes de problèmes, si tu es dans une situation de privation, d'humiliation, eh bien, rends grâce à Dieu. Ne t'apitoie pas sur toi-même. N'essaye pas de charger Dieu, de dire « Oh, il m'a abandonné ». Ne te lance pas dans une sorte d'introspection maladive qui pourrait donner l'occasion au diable, mes amis, de te culpabiliser par rapport au péché que tu auras confessé, pour lequel le Seigneur t'aura pardonné. Mais au contraire, dis « Seigneur, aide-moi, tu as promis que tu seras avec nous, eh bien tu es avec nous, eh bien tu es avec moi dans ces moments d'épreuve. Tout ce que je te demande, soutiens-moi, que je ne puisse pas tomber, que je ne puisse pas murmurer, que je ne puisse pas me révolter. Soutiens-moi, car l'épreuve doit être un sujet de joie complète, nous dit l'apôtre Jacques. Car l'épreuve de notre foi est plus précieuse que l'or. Et Paul dans tout cela, eh bien Paul, l'apôtre, bien-aimé, l'homme qui a marqué l'histoire du christianisme, mes amis, l'homme qui a amené l'évangile pour la toute première fois en Europe, l'homme, mes amis, que Dieu va utiliser puissamment comme aucun homme n'a été utilisé. La Bible nous dit, et c'est Luc dans son livre « Les actes des apôtres », que Dieu faisait des miracles extraordinaires par Paul. Partout où il a été, cet homme, eh bien, a été une grande bénédiction pour l'humanité. Eh bien, nous allons voir comment la vie de Paul, la vie de cet homme, qui au départ s'appelait Saul de Tarse, Tarse, la capitale de la Cilicie, c'est l'actuelle Turquie. Autrefois, c'était la province romaine de l'Asie mineure. Eh bien, Saul de Tarse, sa vie est une vraie illustration de tout ce que nous avons vu concernant la nécessité, l'importance de ce processus de transvasement, de ce processus, de cette opération divine qui nous amène, mes amis, à nous débarrasser de toutes sortes d'impuretés, de toutes sortes de traits de caractère qui nous mettent en porte-à-faux avec la volonté de Dieu. Eh bien, sa vie est une vraie illustration quant à la nécessité d'être vidé d'un vase dans un autre. Nous allons voir que ce principe de transvasement a été à l'œuvre, mes amis, dans la vie de l'apôtre Paul. Dès sa conversion, dès qu'il rencontre le Seigneur de manière glorieuse sur le chemin de Damas, eh bien ce processus de transvasement va donc s'enclencher. Cet homme à qui le Seigneur s'est révélé de manière spéciale, singulière. Cet homme reposait autrefois, comme Moab, sur Sali, jusqu'à ce que le Seigneur de gloire fasse irruption dans sa vie, là, sur le chemin de Damas, comme nous l'avons lu. Et à partir du moment où Saul de Tarse rencontre Jésus, eh bien, celui-ci va le conduire à travers toutes sortes d'épreuves, va amener Paul à se heurter contre toutes sortes d'oppositions, va l'amener à passer par toutes sortes de déserts. Nous le verrons dans les dimanches qui viennent. Il va l'amener dans des moments de persécution. Tout cela afin de le faire ressembler, hein, tous azimuts, à Jésus et à Jésus seul. En effet, l'apôtre Paul va donc connaître le transvasement tout au long de sa vie. Il va être vidé d'un vase dans un autre, et puis de ce vase-là dans un autre, et chaque fois par des situations adverses, par l'adversité, par la persécution, par la privation, par l'humiliation, par l'emprisonnement, par toutes sortes d'épreuves. Car rappelez-vous, ce que nous avions dit, c'est que ce prédicateur célèbre, Baptiste Lee Robertson, avait dit à son assemblée ce jour-là, qu'est-ce qui rend grand les hommes devant Dieu? Eh bien, ce sont les épreuves. Ce sont les épreuves. L'épreuve, quelle que soit sa nature, fait donc partie du plan de Dieu pour notre vie. Alléluia. Alors, réjouis-toi, mon frère et ma sœur, même si tu es dans les larmes. Il y a moyen d'avoir la joie dans son cœur, alors qu'on passe par des moments de privation, alors qu'on vient de perdre son travail, alors qu'on a été victime du tribalisme. Il y a moyen d'être en paix, de continuer la marche avec Dieu, la tête haute, alors que toutes sortes de complots ont amené les gens à nous faire partir de là où nous étions. Si vraiment Jésus est avec toi, eh bien, sache que c'est lui qui aura permis tout cela. Car aucun homme, même tous les hommes de la terre, ne peuvent vous bouger de là où vous êtes. Quand vous êtes assis sur le rocher des âges, personne ne peut vous bouger. Alors si vous arrivez, mes amis, à être bougé par une tempête, alors que vous n'avez rien à vous reprocher, alors que vous poursuivez votre marche dans la sanctification, eh bien, sachez que tout cela va finir par contribuer à votre bien et à votre épanouissement. Car la Bible déclare que tout, absolument tout, les choses qui nous font pleurer, comme les choses qui nous réjouissent, tout, absolument tout, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui marche dans sa volonté. Cet homme va aller de brisement en brisement. Cet homme va aller, mes amis, de privation en privation, d'épreuve en épreuve. C'est ainsi, écrivant aux Galates, chapitre 2, verset 20, il dira ceci, « Je suis crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Oh, alléluia. Voilà comment, mes amis, voilà c'est en quoi le Seigneur nous appelle. Il faut que nous arrivions un jour à crucifier le moi. Et le moi, on ne le crucifie pas une fois pour toutes en disant, maintenant c'est fini. Mon moi a été enterré à la nécropole de Banzangungu. Fini. Maintenant, moi, la vie, je vais la croquer à plein dents. Non. Tout au long de notre vie, ici-bas, nous allons apporter notre croix en renonçant à nous-mêmes. Voyez-vous, il faut que nous prêchions ce message. Alors qu'on met beaucoup d'accent sur l'élévation matérielle, sociale, eh bien, ce n'est pas ça qui intéresse Dieu. L'élévation sociale va rester. L'élévation politique va rester.
Mais ce qui demeure, c'est notre monde intérieur, ce que nous sommes devant Dieu. Mieux vaut être dans le désert avec Christ qu'avoir été pistonné à l'Assemblée nationale par la corruption. Je suis crucifié avec Christ. Mon frère, ma sœur, accepte la croix. Le monde te distrait, le monde te fait miroiter toutes sortes de choses, mais les choses que le monde offre sont éphémères. Voilà pourquoi la Bible nous encourage à regarder aux choses invisibles, car les choses invisibles sont éternelles. Les choses visibles passeront. Aujourd'hui, vous êtes cadre supérieur. Aujourd'hui, vous êtes DG, c'est une très très bonne chose. Mais un jour, il faudra bien que vous arriviez à la retraite et que quelqu'un d'autre prenne votre place. C'est le cours normal de la vie. Vous n'allez pas amener votre trône de déjà en disant non, c'est moi et moi seul. Pas du tout. À 70 ans, 80, je ne sais combien, vous serez amené à faire un pas de côté et à laisser la place à d'autres. Mais ce que nous sommes en Christ, oh alléluia, la position que nous occupons devant lui est appelé à demeurer ad vitam aeternam. Gloire à Dieu. C'est Christ qui vit en moi, dira plus tard Paul, écrivant aux Galates. Christ qui vit en moi, Christ appelé à vivre en nous, à être le centre de notre vie, à être le point de mire et de notre vie. Voilà le but ultime, mes amis de la vie chrétienne. Voilà la raison d'être du transvasement. Voyez-vous, ce n'est pas simplement quelque chose que le Seigneur ferait par sadisme. Non, mais c'est parce que c'est une nécessité. Nous devons absolument ressembler à Christ et à Christ seul. Revenons à notre passage des Actes 9 et à 20. Là, il est question de la rencontre magnifique, extraordinaire, splendide, formidable de Saul de Tarse avec le Seigneur Jésus. La Bible nous dit au premier verset qu'il respirait, lui, Saul de Tarse, qu'il respirait encore et encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Pour lui, c'était inacceptable qu'un juif abandonne les traditions de ses pères, qu'un juif abandonne cette recherche de la justice de Dieu par les œuvres de la loi, pour se tourner vers l'homme de Galilée, vers Jésus-Christ, et confesser que c'est lui le Messie, c'est donc lui l'accomplissement de toutes les promesses messianiques de l'Ancien Testament. C'est impossible. Pour lui, tous les Juifs qui finissaient par croire en Jésus-Christ, par placer leur confiance dans la personne du Christ comme étant le Fils de Dieu, dans la personne de Jésus comme étant le Messie promis, pour Saul de Tarse, mais aussi pour tous les chefs religieux de cette époque-là, et tant d'autres juifs fanatiques et tout ce que vous voulez, eh bien, pour ces juifs-là, en particulier pour Paul, le juif qui se tournait vers le Seigneur, c'était des apostats, c'était des renégats, des gens qui avaient renié Dieu. Et là, une rage s'était emparée de lui. Il respirait la menace, la haine, mes amis, contre ces aventuriers qui se détournaient des promesses faites à Israël pour se lancer dans les bras d'un aventurier qui se faisait passer pour le Messie et qui n'avait même pas été incapable de résister à ce bourreau et qui avait fini par être cloué à Golgotha. Non, c'est inimaginable. Comment cet homme fragile jusqu'au bout, comment cet homme, même s'il a fait des miracles, peu importe, cet homme qui n'a pas été incapable de résister à ce bourreau, comment peut-il se faire passer pour le Fils de Dieu, pour le Messie? Ô Saul de Tarse, ton intelligence est obscurcie, ta religiosité te perd. Et là, il va demander des lettres. Des lettres de la part, il va demander des lettres au souverain sacrificateur, l'autorité suprême juive. On va lui donner des lettres pour les synagogues de Damas, car il avait appris qu'il y avait des conversions, certainement, qu'il y avait de plus en plus de juifs à Damas qui se tournaient vers le Messie. D'ailleurs, il appelle ces gens-là les gens qui suivaient la voie. Zéla. Voilà, pour lui, c'était des apostats, des renégats. C'était des gens dont il fallait tuer, persécuter absolument. Il reçoit donc ces lettres pour les synagogues de Damas. Et le but, c'est d'aller chercher les disciples de Jésus et les amener liés afin de les juger et de les punir. Donc, il est à la tête d'une forte délégation. Il n'est pas parti seul pour aller arrêter les gens et puis de Damas les amener à Jérusalem où il y avait le grand Sanhédrin. Et là, nous voyons que le grand souverain, plutôt le grand prêtre ou le souverain sacrificateur qui était à Jérusalem, avait sa juridiction sur le juif qui vivait à Damas à peu près 240 kilomètres. C'est quand même une trotte, hein, n'est-ce pas? Eh bien, il est parti. Les voilà en route, respirant la haine. Nous allons les arrêter. Ils vont connaître le sort que Étienne a connu. Il a été lapidé. C'est inconcevable. Comment Yahvé, le Dieu de Moïse, de Jacob, tout ce que vous voulez, peut-il accepter qu'il y ait des gens de cette trempe? Et chemin faisant, et alors qu'il approchait de Damas à la tête d'une délégation, tout à coup, nous dit la parole et nous l'avons lu, tout à coup, soudain, une lumière venant du ciel tomba sur lui et resplendit autour de lui. La conséquence, c'est que Saul tombe par terre. Et là, il entend une voix qui lui parle, qui l'appelle par son nom. « Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu ? » Je reviendrai sur ce passage dans cette série d'enseignements dont vous avez vu déjà des affiches à travers la ville, où nous allons voir ce que l'Église de Jésus doit être, où nous allons dresser le vrai modèle de l'Église, l'image de l'Église telle qu'elle émerge de la parole, et nous allons voir, et nous le voyons déjà là, persécuter l'Église, avoir un comportement indigne vis-à-vis de l'Église, essayer de manipuler l'Église d'une manière ou d'une autre, c'est se mettre Jésus à dos. C'est s'attaquer à Christ lui-même. Cet homme pouvait-il s'imaginer qu'en persécutant les disciples de Jésus, eh bien, il persécutait le Seigneur lui-même, avec toutes les conséquences que cela pourrait avoir. Alors là, l'homme répond, « Qui es-tu, Seigneur ?» Le Seigneur lui dit, « Moi, je suis Jésus, ego emi Jesus. Jésus que tu persécutes. » Comment ça? Mettez-vous à la place de cet homme. Et le Seigneur d'ajouter, « Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. » Il faut savoir que cette expression, régimber ou cette locution, régimber contre les aiguillons, était une expression proverbiale très courante chez les Grecs pour parler d'une résistance à un ordre quelconque. Vous voyez d'ailleurs, certains l'utilisent encore aujourd'hui. Attention, on donne un ordre et puis en même temps on fait suivre cet ordre de cette menace en disant « il te serait dur de régimber contre les aiguillons ». Vous voyez, un animal avec les aiguillons, vous voyez ces tiges métalliques pour piquer l'animal là qui moissonne. S'il fait là, il va comme ça, pof, ça le pique, donc ça le maintient sur la bonne voie. Il dit, ce serait dur de régimber contre les aiguillons, de résister contre mon ordre. Mes amis, ces rencontres du Christ sur le chemin de Damas appartiennent à ces événements uniques et singuliers, qui ont la vertu, qui ont la capacité de briser une vie et de la séparer en deux. Il va y avoir pour Saul de Tarse comme il y a eu pour chacun de nous un avant et après, oui ou non. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a un avant, il y a aussi un après. C'est ce qui arrive lorsqu'on rencontre le Seigneur. Et pour Saul de Tarse, eh bien, ça sera pareil. Un avant, mais aussi un après. Gloire à Dieu. Pour nous permettre de comprendre ce que nous allons voir plus tard, nous allons nous attarder un tout petit peu sur l'avant de cet homme, Saul de Tarse. Pour Paul, il y a eu un avant. Alors, pour avoir une idée sur son avant, et nous allons le voir, cet avant-là de Paul constituait sa lie, la lie sur laquelle il se reposait comme Moab. Voyez-vous, c'est Philippiens chapitre 3, versets 4 à 6, qui nous brosse donc, c'est lui-même qui brosse son autoportrait avant sa rencontre avec Jésus. C'est lui-même qui nous dresse son image de ce qu'il était. Et à partir des éléments qu'il nous donne dans Philippiens 3, 4 à 6, nous allons voir que ces éléments constituaient la lie sur laquelle l'apôtre Paul reposait. Voilà ce qu'il dit. Pourtant moi-même, j'aurais sujet de mettre ma confiance dans la chair. Parce qu'avant, il avait placé, c'est ça, la lie. Comment avait-il placé sa confiance dans la chair? Si d'autres croient pouvoir se confier en la chair, à plus forte raison moi. Il s'adresse à ses détracteurs, enfin. Le verset suivant, il dit « circoncis le huitième jour ». Pour les juifs, les incirconcis, c'était des impurs. Ils se détachent des gens. Moi, j'ai été circoncis le... J'ai évolué avec des parents qui respectaient la loi de Moïse. Je ne suis pas comme le reste, comme le commun des mortels, des gens incirconcis. Moi, circoncis le huitième jour. Il continue. De la race d'Israël. Ah, je suis membre du peuple élu de Dieu. Donc je ne suis pas n'importe. Et alors, race d'Israël. Il continue. De la tribu de Benjamin. Regardez, hein, il fonde tout sur le prestige de sa lignée. Hein. De la tribu de Benjamin. Ah ben oui, c'est cette tribu qui avait donné à Israël son premier roi, Saül. Son homonyme. Hein. Il continue. Hébreu, né d'Hébreu, donc je ne suis pas un sang mêlé. Je ne suis pas un métis. Je ne suis pas un hybride. Ni chaud, ni souris, ni oiseau. Mais je suis eux. Comment ça? Je peux regarder les gens en face, leur dire, moi, je suis hébreu. Hébreu né, dont même mes parents. Ce n'était pas un mariage mixte, avec un grec, avec un romain, avec un moulouba, un moukongo, non. Hébreu né, d'hébreu. Voilà, hein, il continue, hein. C'est ça, ça lit hein, autrefois. Quant à la loi, ah, pharisiens, oh, pharisiens, ces gens avaient un zèle extraordinaire pour le respect de la loi de Moïse. Ils avaient même élaboré des lois au-delà de la loi de Moïse. C'est terrible, hein? Voilà. Donc, ils allaient au-delà. Tout ça dans le but de plaire à Dieu. Et ils se vantent, pharisiens, non pas comme les sadducéens. Parce que les sadducéens, mes amis, avaient fini par vider la parole de Dieu de quelques éléments essentiels. Notamment, ces gens ne croyaient pas dans la résurrection des morts. Mais lui dit, pharisiens. Ah, il continue. Quant aux zèles, et ils s'en vantent, hein, persécuteurs de l'Église. Quelqu'un qui ne peut pas accepter voir des gens apostasiés. Quelqu'un qui ne peut pas sentir l'odeur de l'impureté religieuse. Il s'en vante. Et il était sincère. Pour lui, ces ailes-là étaient conformes à la volonté de Yahvé, le Dieu d'Israël. Quant à la justice légale, eh bien, il dit quoi? Irait, oh là là, l'homme qui s'est dit irréprochable est celui qui a eu à approuver le meurtre d'Étienne. Vous voyez la propre justice aux yeux des pharisiens et au regard de la loi et des traditions des juifs, eh bien, cet homme était irréprochable. Donc il était fier de son héritage culturel, familial, religieux, même intellectuel. Il est né à Tarse, c'est parce que je n'ai pas le temps. Donc c'est quelqu'un qui maîtrisait très bien la langue grecque, mais en même temps qui parlait aussi araméen et qui parlait aussi hébreu. Voyez-vous, parce qu'il lisait la parole en hébreu. Donc, ailleurs, il va souligner même qu'il a étudié à Jérusalem au pied de Gamaliel. Oh là là, quelle référence théologique! Gamaliel, le plus grand professeur juif, le plus connu du temps de Paul. Il y avait toute une école, l'école de Gamaliel. Et avec tout ceci, vous voyez bien que l'homme avait de quoi être fier. Oui ou non? L'homme avait de quoi être arrogant, être orgueilleux. Il pouvait donc s'appuyer sur le prestige de sa lignée d'israélite, sa lignée familiale. Il pouvait reposer sur les traditions de ses pères, sur l'observation stricte et même légaliste de la loi de Moïse. Il reposait également sur sa moralité. Vous voyez? Eh bien, tout ceci, mes amis, constituait autrefois la lie de l'apôtre Paul. Comme Moab reposait également sur sa... Tout cela avant sa rencontre avec le Seigneur sur le chemin de Damas. Et donc, voilà l'avant. Et puis après, et nous terminerons par là, il y a eu un après, là, sur le chemin de Damas, après sa rencontre avec Jésus. De cette rencontre glorieuse avec le Christ ressuscité, toute l'existence de Saul de Tarse va être chamboulée, va être désarçonnée, va être désorientée. Il tombe de sa monture. Je l'espère en tout cas, parce qu'il ne pouvait pas amorcer un long voyage à la tête d'une forte délégation pour arrêter tous ces juifs-là sans avoir une monture. La Bible ne dit pas, il est tombé par terre. Mais vous avez peut-être entendu des sermons qu'il est tombé de son cheval. Oui ou non? La Bible ne dit pas qu'il est tombé de son cheval. D'où vient alors cette image du cheval? Eh bien, cela nous vient de l'iconographie chrétienne, particulièrement au Moyen-Âge. C'est-à-dire quand on peignait, on dressait les portraits. Vous avez vu Moïse avec un... Avec une coquille. Et donc, et à partir du Moyen-Âge, on a commencé à dessiner Paul tomba du cheval sur le chemin de Damas. Et avec le temps, cette tradition a fini par influencer les lecteurs de la Bible, au point d'amener certains à dire qu'il était sur un cheval et qu'il était tombé. Il faut savoir qu'à l'époque, au premier siècle, le cheval n'était pas à la portée de tout le monde. Ce sont les soldats romains qui circulaient sur leurs chevaux, les représentants de l'empereur, les gouverneurs et d'autres dignités juives. Donc voilà, je vous passe les détails. Et donc, ils tombent aveuglés par la lumière venue du ciel et abasourdis par la voix de Jésus. De cette rencontre, l'homme sort complètement bouleversé et définitivement persuadé que celui dont il persécutait les disciples est bien le Messie attendu par Israël, est bien le Fils de Dieu, oh alléluia, celui qui pardonne véritablement et qui accorde la vie éternelle. Et ce bouleversement, et on s'arrête là, et ce bouleversement va donc se manifester sous la forme d'abord d'une chute. Il tombe, lui seul, imbu de lui-même, respirant la haine, encourageant ses compagnons de voyage, faisant tout pour arriver, le meneur, les leaders, n'est-ce pas? Mais cette fois-ci, les leaders repartèrent. Et quand il n'y a plus de leaders, c'est la débandade. Hein? Vous savez ça? Eh bien, il tombe. Voilà comment se manifeste le premier bouleversement. Il tombe, et puis ensuite, il perd la vue. Il est complètement désorienté. Ce sont ses compagnons de voyage, à la tête desquels il se trouvait, qui lui tiennent par la main et l'amènent jusqu'à le faire entrer dans Damas. Désormais, il dépend complètement des autres. Ce n'est plus l'homme le leader, le conducteur, l'homme imbu de lui-même, sûr de lui-même, l'homme qui est allé voir le Sanhédrin, le grand prêtre, lui dit, j'ai besoin de lettres, je dois aller chercher ces apostats pour vous les amener ici. Ce n'est plus le même homme. L'homme qui se relève est brisé à tout jamais. L'homme qui se relève a besoin, Jérémie, où es-tu? Joseph, où es-tu? Timothée, où es-tu? Tiens-moi la main et amène-moi à Damas. Il va le faire entrer à Damas. Il va rester 3 jours sans boire, sans voir. Et entre-temps, Dieu va parler. Et nous continuerons. Et vous savez comment il va sortir de Damas? Comme un animal. Il y allait fièrement, orgueilleusement. Il y allait en étant imbu de lui-même, étant sûr d'avoir reçu des lettres de la part des autorités de Jérusalem. Mais il va repartir de Damas, puisque les Juifs, ayant pris qu'un de leurs, celui qui venait pour persécuter les chrétiens, eh bien, était devenu chrétien et il s'était même mis à prêcher Christ aux Juifs, ils vont comploter pour le tuer. Et les disciples vont le prendre. Ils vont le mettre dans un panier comme une petite chèvre. Vous voyez, les transvasements. Alléluia. Et ils vont le faire descendre la nuit, comme des voleurs. Ils se regardent. Attention, attention, il y a un soldat romain. Attendons. Vous voyez? Et puis on l'amène, on le traîne dans le panier. Oh, oh. Viens avec l'échelle. On met l'échelle contre la... Puisque les villes étaient fortifiées autrefois, hein, il y avait des portes d'entrée pour accéder aux villes à l'époque. On met l'escalier ou l'échelle péniblement. Heureusement qu'il y a eu des mains des disciples qui ont aidé Paul. Et là, dans le panier, tenu par une corde, de l'autre côté de la muraille, l'homme, Saul de Tarse, l'homme qui était à la tête d'une forte délégation, l'homme qui était respecté, l'homme qui reposait sur sa lit, cette fois-ci, eh bien, il est là comme une petite chèvre, comme un petit animal, là dans son panier, certainement en train d'intercéder, Seigneur, permets que je ne tombe pas. Permets que ceux qui tiennent la corde la tiennent fermement. Et quand il arrive de l'autre côté, il regarde la nuit dans le noir. Il n'y avait pas d'éclairage, il n'y avait pas de réverbère. Hein. Il regarde à gauche, à droite. Il est parti.
les transvasements. Mon frère, accepte. Ma sœur, ne résiste pas. C'est le chemin qui conduit à la gloire. Et aujourd'hui, je suis convaincu qu'il est dans la gloire. Aujourd'hui, il sert dans la perfection celui pour lequel il aura vécu sur terre. Voyez-vous, et c'est à juste titre qu'il pourra dire, Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Je préfère m'en aller auprès du Seigneur, car pour moi, vivre, d'ailleurs en grec c'est le verbe, pour moi vivre, c'est Christ. Mourir, un gain. Acclamons la parole du Seigneur. Nous allons prier que le Seigneur nous aide. Nous passons peut-être par des moments difficiles. Nous essayons de comprendre et nous n'arrivons pas. Oui, il y a des choses, mes amis, que nous ne pourrons jamais comprendre. Voyez-vous, si nous sommes en Christ, si nous sommes à lui, alors faisons-lui confiance. Laissons-le conduire notre vie. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Merci au Dieu de nous faire voir une fois de plus le bien fondé, la nécessité du transvasement, de ce processus qui nous amène, Seigneur, d'un vase dans un autre, ô Dieu, qui nous amène à aller de rivage en rivage, qui nous amène, Seigneur, à passer par toutes sortes d'épreuves, et in fine, qui nous amène au brisement. Et par le brisement, tu finis par nous faire ressembler à toi. Aide-nous à persévérer. Soutiens tous ceux qui passent par des moments difficiles. Aide-les à demeurer fermes, à savoir que leur combat n'est pas vain. Tu es à leur côté et tôt ou tard, tu leur accorderas la victoire. Merci Jésus. Merci de bénir également, Seigneur, ces paniers d'offrandes, de poser ta main, ô Dieu, sur cet argent afin qu'il puisse servir à ton œuvre. Merci pour tout. Amen.